Vous vous souvenez, dimanche passé, il était question de rencontrer Dieu. Nous avons regardé et nous avons scruté un peu les Écritures pour voir comment est-ce que Moïse a rencontré l'Éternel. Et il y a ce verset 6 d'Exode 34 où l'Éternel passa devant Moïse et il s'écrie « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, vous rendez compte, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. » Jusqu'à la troisième et la quatrième génération, nous avons à la rencontre de ce Dieu qui est extraordinairement saint. Et le Seigneur se révèle de cette manière à Moïse, dans sa compassion, dans cet amour éternel. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est extraordinaire. C'est la personne de Dieu qui veut se révéler ce matin dans ta vie. Amen. Tu rencontres un Dieu trois fois saint. Tu rencontres un Dieu lent à la colère. Tu rencontres un Dieu compatissant. Tu rencontres un Dieu riche en miséricorde. C'est ce Dieu dont tu as besoin pour cette rencontre personnelle. Tu n'as pas besoin d'un autre Dieu que cela. Parce que c'est comme cela que Dieu s'est révélé à Moïse. Et c'est comme cela que Dieu se révèle encore à toi aujourd'hui. Est-ce que tu le connais comme cela, ce Seigneur? Est-ce que tu veux le rencontrer comme cela? Est-ce que tu veux intégrer cette vérité de grâce? Ce Dieu qui fait grâce, compatissant, on a vu, ce Dieu riche en bonté nous ramène à ce texte de Bethesda, parce qu'en grec, il y a cette comparaison et nous avons vu aussi la grâce du Seigneur qui délivre encore aujourd'hui, même après 38 ans. C'est vrai que 38 ans, c'est une éternité, c'est long. Et bien même là, le Seigneur va encore délivrer. Aujourd'hui, c'est la rencontre du Seigneur avec ta délivrance. Même si tu penses qu'elle tarde, il n'y a rien qui arrive par hasard. Le Seigneur veut vraiment te visiter. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Peut-être que tu te sens rejeté. Peut-être que tu te sens incompris. Peut-être que tu te sens complètement à part parce que tu as une vie qui est vraiment, qui a besoin du Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas oublié ce matin. C'est bon de proclamer. C'est bon de saisir la foi, cette fermeté de la foi en Jésus. Et je voudrais vraiment vous partager maintenant ce texte que nous trouvons dans Luc au chapitre 18 à partir du verset 31. Parce que rencontrer Dieu demande quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur. Et pour cette rencontre de Dieu, c'est une suite aujourd'hui, il y a besoin de la rencontre de l'amour de Dieu. Et la rencontre de l'amour de Dieu a été manifestée en Jésus. Le Seigneur ne pouvait pas mieux nous démontrer son amour qu'en envoyant son propre Fils parmi nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été révélé par Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ nous accorde la grâce de rencontrer l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité dans le plan du Seigneur que de nous rencontrer au travers de Jésus, qui est l'amour parfait manifesté de Dieu en chair pour nous. Dieu qui vient te rencontrer personnellement, le Seigneur qui veut vivre dans ta vie, le Seigneur qui veut te rencontrer là où tu en es, c'est au travers de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. En Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. En Jésus, il n'y a pas d'autre vie et en Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. Je l'ai déjà dit, la vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Comme ça, on est tous mis d'accord, on n'a pas besoin d'argumenter avec une personne, à moins que tu veuilles entrer en argumentation avec elle. Mais au moins, cette personne a démontré cette vie extraordinaire de bonté, d'amour, de grâce, de délivrance, de résurrection. Il y a tout en Jésus, amen. Et c'est l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Alors regarde au verset 31 du chapitre 18 de Luc. Il y a Jésus qui prend ses amis, les 12, auprès de lui. Et voici ce qu'il leur dit. « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. La parole de Dieu ne manque pas de s'accomplir. » Amen. « Jésus a été annoncé depuis les temps anciens. » Les temps sont venus, il est venu selon l'annonce des prophètes. Et j'aime bien vous dire que ce qui a été annoncé et ce qui s'est passé depuis les temps anciens, et ce qui doit encore arriver, va arriver. Parce que nous sommes dans les temps eschatologiques, c'est-à-dire dans les temps de la fin, et tout ce qui a été annoncé va arriver. Amen. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle nous convainc, elle nous donne la grâce de pouvoir connaître des choses qui vont arriver et prenons ces choses au sérieux. Maintenant, nous en sommes à cette dimension du don de Jésus. Il lui dit, il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le maltraitera et on crachera sur lui. Et après avoir flagellé, on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. Cette déclaration leur restait cachée. Il ne saisit pas ces paroles. Imaginez-vous, il y a le maître d'amour, Jésus, qui est l'incarnation de Dieu lui-même sur la terre. Par son amour, tout est contenu. La nature de Dieu est contenue dans sa vie. Et il y a ses disciples qui sont là devant lui et il les prend. Il lui dit, écoutez les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais mourir. Mais quel programme ? Seigneur, c'est magnifique d'être avec toi. Tu guéris, tu nourris, tu fais du bien, tu délivres et tu nous annonces ta mort. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, sur ton cœur ? Et lorsque nous rencontrons Jésus, nous devons faire cette rencontre avec le Seigneur. Et j'ai intitulé cette prédication « Voir Jésus ». Et si je veux voir Jésus, c'est au travers déjà de sa mort. Il faut que je comprenne qu'avant que Jésus soit ressuscité, il y a cette dimension de mort pour moi. Si je n'ai pas rencontré Jésus dans cette réalité d'avoir compris qu'il est vraiment mort pour moi, il y a un problème. Je peux être un disciple, je peux être proche de lui si je n'ai pas saisi cette dimension de l'amour de Dieu qui va jusqu'à mourir pour moi, il va me manquer quelque chose. Et c'est vrai que ce temps n'était pas encore accompli pour eux, pour comprendre ces choses, mais c'est extraordinaire de voir que dans cette rencontre, dans cette intimité avec le Seigneur, nous pouvons le comprendre nous-mêmes maintenant parce qu'on l'a vu, la parole de Dieu nous l'a révélé, mais nous pouvons le comprendre nous-mêmes. Mais dans cette intimité, Jésus annonce sa mort. Il annonce son renoncement. Il annonce sa soumission complète au Père. Il annonce que lui veut obéir au Père. Dans cette annonce de la mort, c'est une soumission totale que Jésus essaye déjà de mettre dans le cœur de ses disciples au travers de l'annonce de sa mort. La mort, ce n'est pas réjouissant, on est d'accord. La mort, c'est le drame de l'humanité. La mort, c'est la conséquence du péché de nos parents communs. Nous sommes morts par nos fautes, par notre désobéissance au Seigneur. Cette coupure spirituelle en désobéissant au Seigneur, en désobéissant au commandement de Dieu, entraîne automatiquement la mort non seulement spirituelle, mais la mort physique. Si je suis coupé de Dieu, je suis déjà mort. Et lorsque je rencontre la vie, je dois comprendre que la vie a commencé par la mort. C'est bizarre ça, mais c'est pour me heurter. C'est pour me dire, dans ma faiblesse, en tant qu'homme mortel, tout est possible parce que Jésus a aussi passé par là. Et ce matin, le Seigneur veut faire naître des choses dans ta vie et tu dois complètement intégrer cette dimension de Jésus qui a été jusque dans le désespoir de la mort. Et c'est dans le désespoir de la mort que le Seigneur peut mettre en toi ses plans extraordinaires pour qu'ils prennent absolument vie, pour que tout cela soit régénéré par la puissance de résurrection. Alors il prend les 12 auprès de lui. On monte à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit à mon sujet va s'accomplir. Il va être, je serai livré aux païens. Vous rendez compte la honte. Lui qui est venu pour son peuple. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Jean 1. Et Jésus va être livré à une nation absolument païenne. C'est son peuple qui l'a rejeté et il va être mis dans les mains des païens pour le maltraiter et le crucifier. C'est épouvantable. C'est le comble de la trahison. C'est quelque chose d'abominable. Et Jésus le sait. Je l'ai déjà dit, Jésus aurait pu être le plus grand dépressif que la terre n'ait jamais porté. Vous rendez compte ? Faire le bien jusqu'au bout pour recevoir de la part des hommes une couronne d'épines et une croix. C'est magnifique quand même ce que les hommes peuvent faire en reconnaissance. Donc, moi, je te donne une recette ce matin. Si tu ne t'attends pas à ce que les hommes peuvent faire pour toi, tu seras protégé. N'attends rien de la part des hommes. Bon, dans l'église, on peut quand même s'attendre quand même un petit peu d'écoute, d'affection, de grâce. On est d'accord. Mais il ne faut pas que ça dépasse ta confiance que le Seigneur te demande de faire en lui. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Rien du tout. On a besoin d'avoir des cœurs transformés. Alors nous qui marchons quand même avec le Seigneur depuis un certain temps, on espère quand même que ce cœur de pierre commence à changer pour avoir un cœur de chair et pour, bien entendu, manifester la bonté de l'Éternel. Mais naturellement, je suis incapable d'être bon. Les carottes sont cuites, c'est terminé. Il faut que je change et j'ai besoin de rencontrer ce Seigneur de gloire qui a commencé par la mort. Mais c'est fort ça. C'est l'évangile, c'est la puissance de l'évangile. Ça commence par la mort. Vous vous rendez compte? Parce que quelque chose de glorieux doit être mis dans nos vies. Parce que je dois être percuté dans ma vie par l'évangile. Et quand on parle de mort, tout le monde s'assoit comme aujourd'hui, comme vous. Hein. On est sérieux. Parce que la mort, on sait que on n'y croit pas tellement pendant qu'on est en vie. Vous êtes d'accord? On est un petit peu honnête ce matin. Pourquoi? Parce que Jésus a mis la pensée de l'éternité dans vos cœurs. Donc ce n'est pas normal la mort. Ton âme est éternelle. C'est pour ça que tu te dis que tu ne vas pas mourir. Soyons un petit peu honnêtes. Pourtant, tous ceux qui nous ont précédés, nos cheveux qui commencent à être blancs, les articulations qui commencent un petit peu à coincer. Oui, ça me rappelle quand même que les choses se passent. Mais la mort, on a envie de rejeter ça le plus loin possible. Et pourtant, l'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur est en train de mettre dans ma vie, passe par cette réalité de la mort. La mort à moi-même, la mort à mes ambitions, la mort à mes visions, la mort à ce qui me passionne, la mort à tout ce qui me sépare du Seigneur. Et c'est pour cela, à un moment donné, quand tu es mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tu ne peux plus rien faire. Tes ambitions, tes passions, tes agendas, tout en programme, quand la mort frappe, c'est terminé. J'ai déjà dit, la chemise de nuit des défunts, c'est la seule chemise où il n'y a pas de poche, parce que tu ne vas rien emporter avec toi. Mais c'est vrai, soyons honnêtes, nu je suis arrivé, nu je vais repartir. Je ne vais rien emporter avec moi. Et ma vie doit commencer par cette réalité de cette mort que Jésus a prise sur lui et que je dois aussi prendre au travers de lui sur moi. Et c'est là que quelque chose va naître et que Jésus va faire naître quelque chose dans ma vie. Amen. Alléluia. Donc, livré aux païens, on va se moquer. Oh, on s'est moqué de toi. Il y en a un dont on s'est moqué d'une manière absolument abominable. C'est Jésus. On t'a maltraité. On a maltraité Jésus par les nations. On a été même jusqu'à cracher sur lui, sur le Fils de Dieu, sur le Saint des Saints, sur l'agneau de grâce, sur ce Dieu miséricordieux, lent à la colère, compatissant, riche en bonté, qui manifeste son amour au travers de son Fils qui a été donné. Voilà comment est-ce qu'on va le maltraiter. Voilà tout ce que tous les hommes pourront lui offrir. N'attends rien de la part des hommes. Sinon peut-être qu'on se moque de toi, qu'on te maltraite et qu'on te crache dessus, comme ça les choses sont claires. Tu ne pourras pas être déçu. Ça, malheureusement, c'est le caractère de l'homme. C'est l'égoïsme de l'homme. C'est toute la nature pécheresse de l'homme. Après, alors ce n'est pas fini, hein, après l'avoir flagellé, parce qu'on va encore le battre le Seigneur, hein, on le fera mourir, et il y a cette nouvelle, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu avait été vexé, si Dieu avait été frustré, mais pourquoi est-ce que je vais faire? Je vais ressusciter mon fils pour qu'il puisse avoir la vie éternelle alors qu'eux ont traité mon fils de cette manière. Vous vous rendez compte, la compassion de Dieu pendant ces trois jours, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Seigneur? Il devait vraiment pleurer le Seigneur. Le tendre Père devait pleurer pour voir la rébellion des hommes, pour voir tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais Dieu n'a pas changé son plan, amen. Pendant ces trois jours, peut-être il s'est remis aussi en question, je ne sais pas ce qui s'est passé durant ces trois jours, mais Dieu a tenu son plan parce que c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de promesses. Et la promesse de la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie pour te délivrer encore aujourd'hui, amen. Je proclame la réalité de la parole de Dieu aujourd'hui. Je crois à la puissance de la parole de Dieu qui peut pleinement te délivrer et te faire naître de nouveau et te donner une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. C'est le credo des églises de réveil. Amen pour ce credo. Et jusqu'à la fin, nous allons proclamer que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise et que Jésus revient bientôt. Maranatha, viens Seigneur. Nous t'attendons Seigneur. Mais il y a du boulot entre temps. Tu vas nous trouver à l'œuvre alors que nous intégrons ces choses. L'amour de Dieu qui ne s'est pas détourné de l'humanité et qui a permis la résurrection de son fils, parce qu'il savait très bien que la clé de la résurrection était la clé de tout. Dieu ne pouvait pas s'arrêter à la mort de son fils. Bien sûr qu'il voulait récupérer, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, c'est tellement particulier ce qu'on essaie d'expliquer, de proclamer ce matin. Ça nous dépasse, il nous faut une révélation. D'ailleurs, les disciples ont eu besoin de cette révélation. Et les vrais disciples du Seigneur ont besoin de cette révélation, bien-aimés. On a besoin de cette révélation. On a besoin d'incarner cette réalité de l'Évangile. Et voilà que Jésus ressuscite grâce à l'amour de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il aurait très bien pu ne pas permettre la résurrection. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Peut-être qu'il aurait prié parce qu'on sait que Dieu est avant tout esprit. Je ne sais pas. Mais on voit la compassion de Dieu là. Et Dieu a de la compassion pour nous, malgré toute la rébellion de l'humanité. Dieu va jusqu'au bout de son plan. Amen. Il ne faut pas que tu te décourages ce matin. Malgré toute la rébellion, tous les plans machiavéliques, tout ce qui se passe dans l'humanité, Dieu accomplit son plan d'amour pour toi. C'est tellement bon de le proclamer avec vous. Regardez, suite à cette déclaration, où les yeux, ou plutôt, oui, les yeux du cœur des disciples devaient encore être éclairés. Ce n'est pas pour rien que la suite arrive avec l'aveugle de Jéricho. Voyez, la parole de Dieu est tellement bien construite. Je vous l'ai déjà dit, quand vous lisez la parole de Dieu, lisez-la dans le contexte et dans ce que le Seigneur veut vous annoncer prophétiquement, dans la puissance que le Seigneur veut dégager au travers de sa parole. On lit au verset 35. C'est juste après cet événement où Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Les choses continuent, la vie continue, mais dans cette dimension d'annonce de résurrection. Amen. Et ça, je voudrais vraiment faire ce matin avec vous, c'est d'annoncer, de proclamer la résurrection sur vos vies. La résurrection sur l'Église, pour que ces choses prennent vie dans vos cœurs, amen, et que vous alliez plus loin. Mais pour aller plus loin, on retrouve bien entendu les choses de la vie. Comme Jésus approchait de Jéricho, je lis au verset 35, « Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. » Peut-être que spirituellement, c'est toi ce matin. Ne crains rien, le Seigneur a quelque chose pour toi. Il entendit la foule passé et demanda ce que c'était. Tu entends la parole de Dieu ce matin et tu te demandes ce qui se passe dans ta vie. On lui annonce que Jésus, Yeshua, ou plutôt celui qui sauve de Nazareth, passait. Parce que Jésus passe ce matin dans les rangs, Jésus passe dans son assemblée par son esprit. Jésus veut te parler personnellement. Amen. Alléluia. Il veut nous éclairer ce matin. Gloire à Dieu. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est étonnant que cet aveugle qui mendiait, c'est pas riche, c'est effroyable. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Personne ne prenait soin de lui. Et pourtant, ce Jésus, il avait déjà entendu que c'était le fils de David. Il recherchait quelque chose, il avait compris que c'était celui qui était en train d'hériter le trône de David. Pourquoi est-ce qu'il lui dit « fils de David » ? C'est extraordinaire. Il était peut-être déjà en train de rechercher quelque chose, c'est peut-être pour toi aussi le cas ce matin, tu es en train de rechercher quelque chose, une vérité de la part du Seigneur, peut-être que ça fait des années que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, je ne sais pas, mais il y a, c'est surprenant de voir qu'il lui adresse directement « fils de David ». Fils de l'héritage, fils de celui à qui on a promis que tu vas monter sur le trône et que ton trône va durer éternellement, c'est extraordinaire. Quand tu t'adresses comme cela à ce Seigneur et que tu lui demandes « Aie pitié de moi », mais quelque chose va se passer, amen. Alléluia. C'est fort. Aie pitié de moi. Tu peux le dire ce matin. Aie pitié de moi. Alors bien sûr, il y a la foule qui est là, ceux qui marchaient en avant, ou plutôt qui étaient devant, le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il n'y a que cette phrase qui répète, il y a tout ce qu'il peut dire, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il le dit, il hurle, il le crie à qui veut l'entendre. Alléluia! Peut-être qu'on en est là aujourd'hui. Peut-être que tu n'as que ces mots à dire, mais c'est les mots qu'il faut dire parce que tu t'adresses au Fils de Dieu. Amen. Et là, Jésus s'arrête. Jésus entend. Jésus veut t'entendre ce matin. Il s'arrête. Il prend du temps. Malgré ceux qui sont là pour le rabrouer, pour le faire taire. Peut-être qu'il y en a qui sont autour de toi, qui te découragent. Peut-être qu'ils viennent à te dire chaque fois les mêmes choses, les mêmes rengaines, parce qu'ils ne comprennent pas ta situation. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais le Seigneur, lui, veut s'arrêter ce matin sur ta situation. Amen. Il veut prendre du temps avec toi. Quand Jésus s'arrête, ce n'est pas juste 30 secondes. Il prend le temps, il s'arrête. Il s'arrête. Il y a un point dans ta vie qui est choisi, il s'arrête. Il est là. Tu as rendez-vous avec Jésus. Il entend ton cri. Il voit ton cœur. Il voit ta vie. Il ne se moque pas de toi. Souviens-toi, dans tout cela, qu'on a pu se moquer de ce mendiant, qu'on a pu rire de lui, qu'on n'a fait aucun cas de lui. Et Jésus vient d'annoncer qu'on va se moquer de lui, qu'on va lui cracher dessus, qu'on va le flageller, qu'on va l'humilier, qu'on va le livrer aux nations impures, parce qu'il va être considéré comme impur par les religieux. Souvenez-vous que c'est la jalousie des pharisiens qui a crucifié Jésus. La jalousie spirituelle fait d'énormes dégâts encore aujourd'hui dans les églises. La jalousie spirituelle va jusqu'à crucifier. La jalousie spirituelle va jusqu'à tuer. C'est le même esprit. Et je dénonce cet esprit. « Oh Seigneur, voyez la compassion de Jésus, qui sait qu'il va être flagellé, qui sait qu'il va être maltraité, qui sait qu'on va lui offrir cette couronne d'épines. Il s'arrête pour ce mendiant qu'on va aussi mettre de côté, qu'on va peut-être mépriser, dont on s'est moqué, dont on a ri et dont on rabroue en plus parce que, allez, coince-la, tu ne vois pas, bon ben d'accord, c'est égal, mais en plus on va te boucher la bouche. C'est terrible ce que le cœur de l'homme fait, c'est affreux. Et Jésus ne peut être que touché par cette grâce qu'il veut mettre sur cet homme, surtout quand il lui dit « Mais aie pitié de moi, fils de David !» Il y a cette rencontre du Seigneur extraordinaire. C'est prophétique. Vous vous rendez compte, ces textes sont extraordinaires. Il y a une puissance de révélation de la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. Et j'aime tellement la proclamer avec vous. Elle fait des miracles, cette parole. Elle engendre la vie. Elle m'enseigne. Elle me reprend. Elle me fait du bien, elle m'encourage, elle me rejoint parce que Jésus a la parole incarnée. Alléluia. Alors Jésus qui s'arrête, puis on ordonne de le lui amener. Donc ceux qui le rabrouent, ben écoutez les gars, je vous donne un petit job, c'est au moins, s'il vous plaît, un petit peu de compassion, vous calmez les gars. Amenez-moi cet aveugle. Ça, c'est la main tendue de Jésus qui va montrer à ceux qui le rabrouent, cet aveugle. Eh bien, ceux qui te rabrouent vont t'amener à moi. Vous vous rendez compte l'humiliation de ces gens qui essayaient de... Mais je ne sais pas, ils voulaient voir le spectacle avec Jésus peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de spectacle avec Jésus, c'est ça qui est extraordinaire. Jésus entend les cœurs brisés. C'est ça que Jésus recherche. Le spectacle, les foules, il les évitait Jésus, les foules. Il les évitait. Je veux dire, alors il avait compassion des foules, bien sûr, il les nourrissait. Mais à un moment donné, oh, puis il part, il va à l'écart. Il va dans la gloire de son Père, il recherche la face de Dieu. Puis après, il y a les foules qui vont le chercher. Mais Jésus, tu étais où? Tu as passé où? Tu étais où? Puis voilà, il réapparaît. Il ne cherche pas le mouvement de foule, Jésus. Il recherche les cœurs brisés. Amen. Il a compassion des foules, oui. Il les a nourris. Attention, ne me comprenez pas mal. Mais Jésus a compassion des cœurs brisés. Il veut voir le cri de celui qui crie, de celle qui crie, peut-être dans l'assemblée, du fond de son cœur. Jésus vient pour toi ce matin. Tu as rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Alors, voilà que l'aveugle doit être aidé. Il s'approche de Jésus. Et il y a cette question qui me turlupine aussi. Excusez-moi. Il lui demande, mais que veux-tu que je fasse? Mais ce n'est pas évident, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? À l'aveugle devant, que veux-tu que je fasse? On en a parlé, il me semble, dimanche passé. Le Seigneur a besoin d'entendre ton besoin, bien qu'il le connaisse. Il y a peut-être une dépendance d'être mendiant. Mais comme il a crié, « Aie pitié de moi, fils de David !» Moi, je ne crois pas que j'aurais posé cette question. C'est évident. Que veux-tu que je fasse ? Moi, je pense que cette question est prophétiquement cette dimension que le Seigneur est aussi en train d'enseigner à ses disciples concernant son œuvre. Seigneur, s'il te plaît, la révélation de ton œuvre rédemptrice, j'ai besoin aussi que tu ouvres les yeux de mon cœur. Souvenez-vous, c'est juste suite à ce qui vient de se passer dans cette annonce extraordinaire de la mort et de la résurrection de Jésus qui fait toute mon espérance, comme Paul dit. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est toute l'espérance qui s'en va. Amen. Donc, nous sommes absolument fondés sur cette grâce de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est une révélation que nous devons avoir. Et Jésus, certainement, par cette question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si je pose cette question évidente à cet aveugle, mais indirectement, je nous la pose aussi ce matin. Dans l'œuvre extraordinaire et rédemptrice du Seigneur. Le Seigneur qui te demande où tu en es, quoi qu'il en soit, dans ta vie, le Seigneur te demande, mais que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Dans cette révélation, dans cette grâce de la parole de Dieu, dans la grâce d'être nourri par la parole de Dieu, dans la grâce de la révélation du plan de Dieu. Ça va beaucoup plus loin cette question. Il répondit, Seigneur, Adonai, éternel, que je recouvre la vue, que je revoie, bien sûr. Et merci, cher aveugle, d'avoir donné cette réponse, parce qu'on peut s'attendre à tout. Que je recouvre évidemment la vue. Et à cette demande, le Seigneur répond immédiatement. Jésus lui dit, recouvre la vue. Pourquoi ? Parce que ta foi t'a sauvé. C'est parce que ta foi t'a sauvé que tu recouvres la vue. Amen. Et que tu recouvres la vraie vie aussi. La vie éternelle, parce que foi et salut sont intimement liés. Et quand Jésus te dit, recouvre la vue. Amen. C'est qu'il veut aussi te donner la vie en abondance. Amen. Ta foi t'a sauvé. Rendez compte de la part de ce Jésus extraordinaire qui est là pour mourir, qui est là pour ressusciter dans sa compassion alors qu'on le rejette complètement. Plus tard, juste après, il annonce ta foi t'a sauvé parce qu'il sait que sa vie va incarner l'espérance suprême au travers de la mort et au travers de toutes les maladies qu'on peut avoir. Le Seigneur, grâce à la foi qui sauve, peut me guérir. Amen. C'est une œuvre rédemptrice complète, esprit, âme et corps. Complète l'œuvre de Dieu. Complète. Oh, c'est tellement fort. Merci Seigneur pour ta parole. Et quand Jésus t'adresse ces paroles, ta foi t'a sauvé, c'est que tu es vraiment sauvé. Et je souhaite que l'Esprit témoigne à ton esprit ces paroles de Jésus, que ta foi t'a sauvé, c'est fait. Amen. Tu es entré dans la maison de Dieu. Tu es un fils, une fille de l'Éternel. Le Seigneur ne se moque pas de toi parce qu'on s'est suffisamment moqué de lui pour qu'on ne se moque plus de toi dans les plans qu'il a pour toi. Dieu ne se moque pas de toi. Oui, Dieu se moque des moqueurs. On va un petit peu y laisser ça quand même. Hein. Mais la moquerie t'attire la moquerie. C'est ça qui est terrible. Le Seigneur ne va jamais se moquer de toi. Jamais. Dans le brisement de ta vie, là où tu en es, le Seigneur a compassion de toi. Une compassion extraordinaire qui nous ramène justement dans Exode 34, verset 6, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, cet instantané, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Nous avons rendu gloire ce matin au Seigneur. C'était tellement bien dirigé, Thierry, ce que tu as reçu. Oui, nous glorifions le Seigneur pour la vie éternelle qu'il nous a donnée. C'est bon de glorifier le Seigneur dans l'assemblée. C'est bon de dire qu'il est extraordinaire, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a béni, qu'il m'a délivré, qu'il veut qu'on me délivre, qu'il veut me conduire dans toute sa volonté. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. C'est un petit peu facile hein, d'être spectateur après ça. Hein. On est là, rabroué, puis après le Seigneur, « Oh, c'est super !» Non, je vous dis, mais c'est... Le Seigneur a de la patience. Dieu veut te rencontrer là où tu en es. Et il suit Jésus. Mais je pense que, bien sûr, il l'a suivi avec sa vue, bien entendu. Et quand la parole de Dieu dit qu'il suivit Jésus, c'est qu'il voyait vraiment. Mais je pense que la transformation a été faite déjà dans son cœur. Amen. Il a suivi Jésus avec son cœur. pas avec sa vue. Et c'est ce qui se passe avec nous. Lorsque nous avons cette révélation de la mort en Christ et de la résurrection en Christ, eh bien cet amour de Dieu, long à la colère, compatissant, riche en bonté, miséricordieux, me donne de le suivre avec les yeux de mon cœur. Amen.